Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale s'intéresse à l'organisation Interpol, une organisation méconnue dont les activités font souvent fantasmer le grand public. Interpol, qui en tant qu'organisation partenaire de l'ONU, dispose à New York d'un bureau de liaison pour s'acquitter, entre autres, de son mandat d'observateur auprès des Nations Unies. Un bureau dirigé par le français Emmanuel Roux. Ce commissaire divisionnaire a bien voulu se soumettre à l'interrogatoire en règle mené par ONU Info en dressant d'abord l'historique d'Interpol.
Interpol a été imaginé par des chefs de police, plutôt européens, en 1914, qui sont réunis à Monaco. Et ensuite, Interpol a été créé formellement en 1923, et le siège a été, à l'époque, positionné à Vienne. Je commencerai par vous dire ce que n'est pas Interpol, parce qu'Interpol n'est pas un service de police. Les personnels d'Interpol n'ont pas la capacité d'aller dans les États membres, 192 aujourd'hui, États membres d'Interpol, pour aller y faire de la police. La police relève de la souveraineté d'un État. Et Interpol est donc un outil de coopération multilatérale, policière, en matière de police criminelle, y compris le terrorisme, le crime organisé, au profit des États membres.
Alors pourquoi on a ressenti le besoin, donc il y a pratiquement un siècle, de créer une telle organisation? Est-ce qu'il y avait vraiment une accélération de la criminalité? Est-ce qu'il y avait les frontières qui commençaient à être dépassées? Pour quelles raisons?
C'est exactement ça. Les criminels ont commencé à avoir accès à des moyens de communication, notamment la voiture, hein, c'est l'époque de la voiture, du train qui passait les frontières. Et les policiers, eux, s'arrêtaient par les frontières à cause du principe de souveraineté nationale d'un État sur sa police. Et donc, il a fallu que l'information passe les frontières si les policiers ne le faisaient pas. Et donc, Interpol a été créé comme un énorme, on dirait un hub aujourd'hui pour les Français, un lieu d'échange et de coopération pour passer de l'information entre policiers qui se font confiance. La question de la confiance est extrêmement importante dans ces matières de coopération policière.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'au départ, Interpol était uniquement européenne ?
Interpol a commencé plutôt sur des pays, on va dire, de l'Ouest et de l'Europe, pour rapidement arriver à une masse critique très importante. Aujourd'hui, on est donc 192 États membres, 193 pour l'ONU, même si le recouvrement n'est pas aussi simple qu'il en a l'air.
En quoi aujourd'hui cette coopération a évolué? Est-ce qu'après la voiture, il y a eu le problème des trafics divers avec les avions, les bateaux? Est-ce qu'il y a eu un problème d'accélération de la criminalité?
Alors, les relations entre Interpol et l'ONU sont anciennes et elles sont aujourd'hui vraiment très denses. Interpol est donc observateur auprès de l'ONU depuis 1996. On a créé ce bureau de représentation en 2004 et j'ai la joie de le diriger depuis donc 2015. Et Interpol est cité aujourd'hui par plus d'une cinquantaine de résolutions de l'Assemblée générale, autant du Conseil de sécurité. En novembre dernier, 2016, la résolution 71-19, dont l'objet unique est la coopération entre Interpol et les différentes entités et secteurs de l'ONU. Donc on a une raison qui est très forte.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a une coopération spécifique avec l'Organisation des Nations Unies en tant que telle, ou est-ce qu'il y a des agences spécialisées? Je pense par exemple à UNODC qui est à Vienne, ou est-ce que vous essayez de généraliser cette coopération avec la quinzaine de grosses agences des Nations Unies?
Alors, je parlerai d'un écosystème entre Interpol et l'ONU qui est en train de se développer, de se constituer. Au niveau politique, Interpol est souvent invité par l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité à intervenir dans ces sessions, et notre secrétaire général ou moi-même, quand je le représente, on a donc délivré des discours dans ces très hautes instances politiques. On est cité dans des rapports du secrétaire général. Mais également, on a tout un système d'accords, de coopération, un peu bilatéraux, j'allais dire, entre Interpol et différentes effectivement, entités de l'ONU. L'ONUDC, cité en premier, bien évidemment. Le département de la sécurité aussi, parce que quand les laissez-passer de l'ONU sont volés ou perdus, et ben ils intègrent notre fichier des passeports perdus ou volés. Ils viennent rejoindre les 70 millions de passeports perdus ou volés déclarés à Interpol, mais également d'autres entités, bien sûr la DECT, avec qui on collabore de manière très 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 proche. Et nous mettons même également d'ailleurs des projets avec le CTITF, donc l'équipe spéciale de lutte contre le terrorisme. On a plusieurs projets communs qu'on met en œuvre sur le terrain avec leur financement.
Interpol met en relation les polices du monde entier pour résoudre les crimes internationaux.
Vous parliez tout à l'heure de l'importance de la confiance dans la coopération entre les différentes polices. Est-ce que ces rapports que vous avez au sein de l'organisation donc, sont chaque fois systématiquement retranscrits au niveau new-yorkais, au niveau onusien ? Et est-ce que, par exemple, sur le trafic d'êtres humains ou sur le trafic de drogue, vous avez ce type de coopération au sein même de l'entité, on va dire, new-yorkaise ?
L'ONU a cette capacité qui est formidable pour Interpol d'apporter un soutien politique, j'allais dire une caution politique, mais c'est presque ça, lorsque des rapports, lorsque des résolutions incitent les États membres à mettre en œuvre ou à utiliser ou à bénéficier des outils d'Interpol, des outils et services, donc de nos 17 bases de données par exemple, eh bien, on voit nos États membres tout de suite accorder un crédit supplémentaire à nos outils puisque l'ONU fait confiance et les recommande.
Aujourd'hui, donc, Interpol est basé en France, est basé à Lyon. C'est le siège principal. Est-ce qu'il y a des bureaux aussi régionaux et le total de toutes ces infrastructures, bureaux, sièges et autres, en termes d'effectifs, combien ça représente aujourd'hui votre organisation ?
Aujourd'hui, Interpol emploie 800 personnes sur l'échelle planétaire. Notre siège, effectivement, historiquement, est en France et est aujourd'hui à Lyon. Nous avons une base assez importante, une espèce d'annexe très importante à Singapour pour tout ce qui est cybercrime, qui prend une ampleur considérable. Et nous avons des personnels d'Interpol dans 7 bureaux régionaux sur pas mal de continents, continent africain, continent américain et asiatique. Et nous avons donc 3 bureaux de représentation, un auprès de l'ONU, un auprès de l'Union européenne et un auprès de l'Union africaine.
Alors est-ce que ça veut dire que cette coopération a porté ses fruits ? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, Interpol peut se targuer, seul ou en coopération avec les autres, d'avoir fait avancer un dossier particulier en termes, par exemple, on parlait tout à l'heure de trafic de stupéfiants. Est-ce que la coopération mise en place par Interpol a permis des saisies importantes ou des constitutions de banques de données pertinentes ?
Et les policiers du monde et les polices du monde, aujourd'hui, n'imaginent plus travailler, coopérer sans passer par Interpol. Parce que le réseau est sécurisé, on le connaît, on lui fait confiance. C'est un réseau entre professionnels de la police et de la sécurité intérieure. En 8 heures, qui est la journée de travail commune, il y aura eu 4,2 millions de consultations de nos fichiers et il y aura eu plus de 1000 hits positifs. Ça vous donne un peu l'ampleur de la valeur ajoutée des services d'Interpol aujourd'hui au niveau mondial.
Alors la police, c'est une histoire d'image, une histoire aussi de film et peut-être de fiction sûrement. Parfois c'est écrit aussi, ces films, par des anciens policiers. On a toujours à l'esprit quand même ces rivalités entre services de police. Je prends la France, entre la gendarmerie et la police nationale ou autre. Est-ce qu'il n'y a pas quand même parfois des problèmes et des conflits ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même dans cette coopération qui paraît idyllique, des problèmes de conflits, de compétences entre les différentes polices et dans la coopération à travers Interpol ?
Les complexités sont multiples de langues, et Interpol a 4 langues officielles. Les complexités sont juridiques, elles sont territoriales. Mais avec cette expérience qui s'est ajoutée avec le temps, cette expérience concrète, hein, où tous les jours, on a appris à travailler ensemble. Aujourd'hui, les policiers savent ce qu'ils peuvent attendre et ce qu'ils ne peuvent pas attendre d'Interpol. Et nos règles, on a une constitution, hein, qui est une espèce de traité intérieur, qui nous interdit toute intervention dans les domaines politiques, religieux, militaires ou raciaux. Donc nous avons un système extrêmement élaboré, très solide, de contrôle à plusieurs niveaux, que toutes les requêtes qui passent par Interpol eh bien, soient compatibles avec ces règles fondamentales d'Interpol.
Et s'il y a des pressions de ministère de la Justice, de ministère de l'Intérieur, de ministère des Armées ou autre, est-ce que Interpol continue dans une totale indépendance en faisant fi de ce genre de pression ?
On a cette chance d'avoir un bagage juridique et j'allais dire que la marque Interpol aujourd'hui est assez puissante, assez reconnue, assez respectée pour que nous puissions parfaitement respecter nos règles tout en rendant le service attendu par nos États membres.
24 heures sur 24, 365 jours par an, nous surveillons le monde pour recueillir, analyser et diffuser des informations sur la criminalité.
Alors vous, par exemple, vous êtes un policier de formation, vous avez été et vous êtes sûrement toujours au grade de commissaire.
Commissaire divisionnaire, oui.
Commissaire divisionnaire.
De la police nationale française.
Comment on arrive, comment on est intéressé, comment on est happé par l'international et par Interpol ? Comment on rejoint Interpol ?
C'est facile et c'est passionnant. Un policier aujourd'hui sait qu'il ne peut plus travailler seul au sein de ses frontières. Donc on a pratiquement tous dans nos carrières aujourd'hui un passage, moi j'en ai eu deux, hein, j'étais le chef de la coopération européenne multi-bilatérale française pendant plusieurs années, et aujourd'hui je suis à Interpol, donc on a tous conscience que dans nos CV, pour pouvoir travailler, il faut avoir une compréhension un peu complète de ces questions de coopération multi ou bilatérale. Et c'est facile, on recrute régulièrement. Un tiers des personnels qui travaillent pour Interpol sont en fait payés par leur État membre. Moi, je suis payé par la police française et je suis mis à disposition, j'allais dire offert, à Interpol qui m'emploie pour le représenter auprès des Nations Unies. Et donc, on a un site web de recrutement et on voit les postes vacants, on est intéressé, on postule et on est recruté. Alors, on a plusieurs centaines de candidats par poste. Hein. Interpol est très attractif aujourd'hui. Mais voilà, c'est un peu de passion et de réussite.
Alors, on le rappelle, donc, Interpol est observateur à l'ONU, donc dispose de ce statut d'observateur depuis 1996. Et il y a un bureau qui a été créé dans la foulée. Vous dirigez ce bureau depuis 2015. Quelle est la griffe, quel est l'apport que vous estimez avoir fait donc, à ce bureau depuis que vous êtes là, depuis en gros 3 ans?
Parfois, quelques amis diplomates veulent me faire très plaisir et me disent que je fais un bon diplomate. Je ne suis pas un diplomate, je suis un policier qui négocie. Et je crois que c'est la richesse de ce travail et de cette position que j'occupe aujourd'hui, c'est d'avoir un pied dans le monde policier très concret. Et j'ai quand même 27 ans de police aujourd'hui, donc j'ai un peu d'expérience. Mais aussi cette connaissance du milieu politique, de par mes fonctions précédentes. Et puis, je baigne aujourd'hui dans le monde des diplomates, qui est vraiment passionnant, qui est de très très haut niveau. Et c'est intéressant de faire ce pont entre questions de police, de sécurité intérieure, de coopération policière et le portage diplomatique.
Justement, on est quand même au carrefour, en effet, du policier, au fonctionnaire, du diplomate, des énarques pour la France ou d'autres cursus de formation, et des politiques. Est-ce que justement, ce trio-là, ça marche bien? Est-ce qu'il n'y a pas quand même parfois des différences d'approche, des différences culturelles?
Il y a de très fortes différences, et mon travail aujourd'hui, c'est de traduire, en fait. De traduire un langage policier, une exigence policière, des besoins d'expertise, dans un langage diplomatique, dans un sens et dans l'autre.
C'est ce réseau de pays travaillant en collaboration qui fait d'Interpol une organisation unique.
Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à toute cette accélération, vous parliez tout à l'heure de cybercrime, y compris donc avec un bureau spécial à Singapour, est-ce qu'aujourd'hui, Interpol est sans arrêt obligé de se mettre au diapason de la criminalité, d'anticiper ou au contraire de courir à la traîne un peu de cette criminalité?
On essaie d'être en avance. La criminalité évolue à une vitesse faramineuse du point de vue technologique et pratique. Hein, c'est extrêmement fluide. Et les moyens des policiers sont toujours plus financiers, y compris, hein, et humains, sont toujours plus réduits que les moyens du crime qui sont quasiment illimités. Nous avons une forte activité d'observation, d'analyse pour en fait évoluer nous-mêmes, mais surtout donner à nos États membres et à leurs bureaux centraux nationaux qui font ce pont entre Interpol et l'État membre dans chacun des États membres, les clés de l'évolution à venir et les outils à jour pour qu'ils puissent faire de la police avec des outils et services et des réflexes policiers qui sont les bons pour la police de demain.
Dernière question, est-ce que ce n'est pas dur aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas antinomique à la fois d'être et de travailler pour une organisation qui s'appelle Interpol, qui nécessite un certain niveau de confidentialité, un certain niveau de secret, et en même temps de communiquer pour faire avancer les choses, pour essayer donc de montrer au public, de faire de la vulgarisation? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à la fois de se cacher et en même temps de communiquer?
C'est très facile, parce que tout le monde comprend aujourd'hui l'intérêt de la coopération policière, l'échange de données d'informations dans un cadre juridique très, très, très solide, hein, bien évidemment. Et d'un autre côté, donc le grand public est facile en fait, à peu près à joindre, et merci aujourd'hui de nous permettre de le faire au sein de l'ONU. Et en même temps, les policiers ont des codes de valeurs qui sont quand même partagés, de respect des libertés individuelles, de respect de la confidentialité des informations individuelles et personnelles. Et donc ces deux mondes cohabitent, mais de manière assez étanche au quotidien.
Interpol. Lutter contre la criminalité internationale pour rendre le monde plus sûr.
Voilà, et c'est avec le commissaire divisionnaire Emmanuel Roux du bureau d'Interpol à New York que se referme Escale, un magazine préparé et présenté cette semaine par Jérôme Longuet avec la collaboration de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. Vous pouvez également les retrouver sur les médias sociaux. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.